Troisième partie, chapitre premier. En voyant rentrer sa petite fille, la grand-mère n'avait rien dit, mais Hélène avait bien compris que si elle ne s'expliquait pas franchement, ce n'était pas qu'elle n'eût point des observations à présenter ni des objections à faire. Et aux demi-mots, aux allusions que la vieille femme laissait échapper avec sa prudence et sa finasserie de paysanne, il n'avait pas été difficile à Hélène de deviner quelles étaient ses observations et ses objections. Elle ne comprenait pas que sa petite fille se fût ainsi effrayée, car, sans lui avouer toute la vérité, Hélène avait bien été obligée de raconter qu'elle quittait Courtemer pour ne pas être en butte aux poursuites de Guiscard. Pour elle, ces poursuites n'étaient pas si graves. Deux ou trois bonnes gifles auraient remis M. le comte de Courtemer à sa place, et quand il aurait vu comment on l'accueillait, il se le serait tenu pour dit. Au moins, c'était ainsi que les choses se passaient au temps de sa jeunesse. Et puis, d'autre part, elle ne comprenait pas davantage qu'on eût tant de susceptibilité et de fierté quand on était dans leur position. Cela était bon pour les riches de lever la tête, pour les pauvres, il n'y avait qu'à tendre le dos. Ça avait été un vif chagrin pour Hélène de se sentir ainsi blâmée. Il lui eût été si doux d'être approuvée et soutenue. Cela lui eût été un tel soulagement de n'avoir pas à porter seule la responsabilité de cette situation qui était le fait des circonstances et non de sa volonté. Néanmoins, elle n'en avait rien dit à sa grand-mère, et elle avait accepté ses allusions sans répliquer et sans se plaindre. Ce qu'elle eût dit n'eût peut-être pas été compris. Une vieille femme ne sent pas de la même manière qu'une jeune. Une paysanne n'a pas la sensibilité que donnent l'éducation et la vie du monde. Enfin, la pauvre grand-mère était assez malheureuse pour avoir le droit de n'être pas juste et de ne voir que les angoisses de sa misère présente. D'ailleurs, Hélène avait mieux qu'à se défendre ou à se fâcher, elle devait trouver quelque chose à faire, et il y avait là de quoi l'occuper entièrement, car si cela avait été difficile avant son entrée au château de Courtemer, ça l'était encore plus maintenant. Pourquoi avait-elle abandonné cette position, pour elle magnifique? C'était ce que chacun se demandait. Elle avait donc le caractère peu commode, ou bien elle avait des exigences qu'on ne pouvait contenter, ou bien tout un monde de questions auxquelles elle ne pouvait guère répondre, encore moins peut-être à celle qui était bienveillante qu'à celle qui était malveillante. Avec le père Bonjean, elle avait dû confesser la vérité, ou au moins une partie de la vérité, car la honte l'avait empêchée de tout dire. Mais elle avait trouvé chez lui à peu près le même sentiment de blâme que chez sa grand-mère. Fallait-il s'effaroucher ainsi? Une honnête femme sait toujours se faire respecter. Pour être un cancre, Guiscard n'en était pas moins un gentilhomme, un galant homme, et puis, une pareille position ne méritait-elle pas qu'on s'imposât des sacrifices pour la conserver? Où en trouvait une pareille? Quant à lui, il n'en connaissait pas, et puis d'ailleurs, après ce qui venait de se passer, il oserait vraiment pas recommencer une tentative de ce genre, car enfin sa responsabilité était engagée, tout cela était vraiment bien malheureux. Il s'arrêta, par modération, par politesse, par pitié, car il avait encore un mot au bout de la langue. Tout cela était bien ridicule. Cependant, il eut la délicatesse de ne pas le lâcher, il faut être généreux. N'ayant rien à attendre de lui, elle se tourna du côté de M. Malattiré, l'inspecteur, qui, en la recevant et en l'entendant exposer sa demande, ne fut pas maître de retenir un mouvement de surprise. « Comment? Vous avez abandonné votre position chez M. le marquis de Courtemer? En voilà une surprise !» Mais tout de suite il se reprit. C'est-à-dire que je suis surpris sans être surpris, ou tout au moins dans une certaine mesure. Je suis surpris que vous ayez abandonné la place. Mais d'autre part, j'aurais été surpris que vous la conservassiez, parce que... Il s'arrêta, car il était peut-être imprudent de donner ses raisons, et cela n'était pas utile, au moins dans une certaine mesure. Enfin, cela devait arriver, quoique d'autre part cela pût ne pas se produire. En tout cas, vous voilà dans l'embarras. « Cela est certain. » Et il parut réellement satisfait de trouver une certitude sur laquelle il put s'établir solidement. Dans l'embarras, évidemment, elle était dans l'embarras. Cela ne pouvait être contesté. « C'est pour sortir de cet embarras, » dit Hélène, « que je viens vous rappeler une demande et vous prier de l'appuyer. Nous approchons des vacances. N'aurez-vous pas quelques mouvements? Il y aurait bien votre affaire, seulement cela ne ferait pas du tout votre affaire. Mais encore, je ne suis pas exigeante. « Je sais bien, mais vraiment, et en toute conscience, ce serait une chose détestable pour vous, que je n'ose pas vous proposer, et même, si je vous le proposais, ce serait pour vous conseiller de ne pas l'accepter. » Cependant, Hélène insista. « Vous connaissez Ivranche ? Ivranche la Folletière ? Joli pays d'herbage, riche par ses prairies et que l'industrie, dans un temps donné, rendra plus riche encore. Eh bien, le conseil municipal d'Ivranche vient de voter la laïcité pour son école communale de filles, tenue jusqu'à ce jour par des congréganistes. Oh, très brillantes les chères sœurs, il n'y a rien à dire contre elles, seulement le nouveau conseil que le Parti démocratique a fait élire grâce au développement de l'industrie qui appelait un grand nombre d'ouvriers dans le pays, jusqu'en ces derniers temps agricoles, le nouveau conseil a adopté la laïcité. Mon Dieu, c'est une opinion. Évidemment, elle est défendable. D'autre part, elle est attaquable. Heureusement, ce n'est pas notre affaire. Les choses sont ainsi. Alors, pour cette école laïque, il faut une institutrice laïque, s'écria Hélène, dans son impatience de s'offrir. Juste, me voici. Simplicité du jeune âge, si j'ose m'exprimer ainsi. Vous vous imaginez donc que parce que le conseil municipal d'Ivranche a voulu la laïcité, les choses vont aller sur des roulettes? Eh bien, détrompez-vous. D'abord, le conseil, dans son opinion présente, n'est qu'en assez petite majorité. Et cette majorité n'a été nommée aussi qu'avec peu de voix. Vous comprenez donc que le pays est partagé en deux. D'un côté, ceux qui veulent l'instruction par les sœurs. De l'autre, ceux qui la veulent par une laïque. Les partisans des sœurs, ce sont les bourgeois, les gens riches. L'ancien Ivranche, celui qui possède la terre. Les partisans de l'institutrice laïque, ce sont les représentants des ouvriers. Vous devez comprendre que dans ces conditions, les sœurs ne veulent pas céder la place. Elles ont loué, ou plutôt, on leur a loué une grande et belle maison au centre du bourg, où elles vont ouvrir leur école à la rentrée, tandis que l'institutrice devra s'installer dans le local assez misérable qui appartient à la commune. C'est donc la lutte qui va s'engager entre l'école congréganiste, ou plutôt libre, et l'école communale. Vous voyez, n'est-ce pas, les dangers de cette position ? Mon Dieu, non, si chacun reste à sa place. Si chacun reste à sa place, précisément, voilà le mot. Mais c'est que personne ne reste à sa place, si j'ose m'exprimer ainsi, au moins en temps de lutte. Et c'est en pleine lutte, en guerre de religion, que tombera l'institutrice qui arrivera à Ivranche. Je vous demande un peu ce que vous iriez faire là-dedans, ma pauvre demoiselle. Gagner ma vie, honnêtement, sans me mêler à aucun parti. Est-ce que c'est possible ? Misère de notre vie. Quand nous ne sommes pas pour les uns, on nous accuse tout de suite d'être pour les autres. Dans chaque parti, il y a du bon, n'est-ce pas ? Sans doute. Le diable, c'est ce qui est bon pour ceci et mauvais pour cela. Comment naviguer entre les deux ? J'ai passé ma vie à essayer cette manœuvre, et à vrai dire, tout à fait entre nous, j'ai perdu la boussole. Que feriez-vous, vous, une femme, mon devoir ? Mais c'est qu'il n'est pas si facile que cela de faire son devoir au milieu de gens en guerre. D'un côté, le parti clérical, dont le vrai chef devrait être le curé, tandis que c'est le vicaire, attendu que le curé, M. Well, le meilleur homme que je connaisse, n'a qu'un souci, vivre en paix, ce qu'il traduit par un mot toujours le même, « Surtout ne me faites pas d'affaires ». Au contraire, le vicaire, M. l'abbé Périchard, très bon homme aussi, bien entendu, excellent homme, qui n'a pas cette peur de la lutte et se jette à corps perdu dans la bataille, ce qui lui fait prendre la tête du parti, c'est lui qui inspire tout, c'est lui qu'on consulte, c'est lui qui commande, si j'ose m'exprimer ainsi. Qu'importe, puisque vous dites que c'est un excellent homme. Excellent n'est pas assez, je dis le plus digne homme du monde, mais enfin, si le cœur est bon, la main est... Elle est vigoureuse, très vigoureuse pour ses adversaires. Il soutiendra les siens, soyez-en sûrs, et il attaquera ses adversaires. Ceux-ci, je vous l'indiquais, ont à leur tête la majorité libérale du conseil municipal. Excellentes gens aussi, et quand je dis excellents, ce n'est pas assez, les plus dignes gens du monde. Leur chef est le maire, M. Hamet, un excellent homme aussi, le meilleur homme du monde, qui, pour sa tranquillité, aurait bien mieux fait de ne pas s'embarquer dans cette galère. Mais que voulez-vous ? Le besoin de popularité, besoin très noble, sans aucun doute, mais qui mène loin. Avec cela, M. Hamet, qui était un petit vétérinaire, a épousé une veuve riche, et pour éblouir sa femme, pour lui montrer qu'il est quelqu'un, il tient à paraître devant elle, le ventre saint de l'écharpe municipale. Il se trouve ainsi plus bel homme. Et puis, pour lui, il a une passion que la mairie lui permet de satisfaire, il aime à rédiger, c'est son mot, et il rédige tant qu'il peut, tout ce qu'il peut, des arrêtés, des circulaires, des lettres sous-préfet, à ses administrés, à tout le monde. Voilà Ivranche et ses autorités au moment même où la guerre va y éclater et s'y faire sur le dos de l'institutrice communale. Et vous voudriez être cette institutrice?
Il le faut bien.
Mais malheureux enfant, le poste a été proposé à 4 ou 5 personnes, aucune n'en a voulu.
C'est qu'elles en avaient un autre,
sans doute. Moi je n'en ai pas, et j'accepterai celui-là avec reconnaissance.
Vous ne savez pas à quoi vous vous exposez.
Quand on fait son devoir, qu'a-t-on à craindre?
Tout, c'est-à-dire rien. Enfin, beaucoup.
Vous m'intéressez trop pour que je me fasse le complice de votre suicide.
Alors il ne me reste qu'à voir monsieur le directeur de l'enseignement.
Vous ne le ferez pas.
Demain, sans plus tarder.
Elle dit cela d'un ton résolu qui stupéfia monsieur Malattiré. Comment pouvait-on parler avec cette assurance?
Et une femme encore?
Au moins, dit-il au moment où Hélène se levait pour prendre congé, si vous persistez à voir monsieur le directeur, ne lui parlez pas de moi, c'est inutile. En tout cas, je ne vous ai rien dit.